Chapitre 2. Les différentes facettes de l'amour. Une semaine plus tard, je me retrouve face à Mario et Anna. Ce dernier est plus souriant que je ne m'y attendais. Anna semble très heureuse que son mari ait accepté de venir avec elle. « Bonjour, Lise, » me dit Mario. « Je suis heureux de faire ta connaissance. » Anna m'a fait part de sa visite à ton bureau et de la démarche qu'elle a décidé d'entreprendre. Mais elle a jugé bon de ne me raconter que dans les grandes lignes ce qui s'est passé. J'avoue qu'elle a piqué ma curiosité. J'ai vu une différence chez elle depuis une semaine. Elle est beaucoup plus calme. J'ai accepté de venir aujourd'hui, mais je ne sais pas si une telle démarche m'intéresse. Merci d'être là aujourd'hui, Mario. Pour ce qui est de l'avenir, tu seras le seul à décider si ce cheminement te convient ou non. Prenons une journée à la fois, d'accord? Je sens que Mario est ici surtout pour faire plaisir à Anna et ensuite par curiosité. Il est sur ses gardes. Une chance qu'il connaisse déjà mon travail, sinon il serait beaucoup plus méfiant. C'est déjà une belle victoire pour le couple que de pouvoir venir ensemble à ce genre de rencontre. Le regard de Mario et son signe de tête affirmatif me disent qu'il est heureux que je ne tente pas de le convaincre de suivre l'exemple d'Anna et qu'il doit décider pour lui-même. Je continue donc. Lorsqu'un couple a des difficultés, je suis sûre qu'il vaut mieux que les deux soient présents afin que j'aie l'occasion d'entendre la version de chacun. Cela permet d'établir les faits d'une façon plus complète. Est-ce que tu es d'accord, Mario, pour dire que votre couple et votre vie de famille ont besoin d'amélioration? Oui, je dois admettre qu'Anna a raison. Mais ne me demande pas comment nous en sommes arrivés là, ça s'est fait tout seul. Notre vie s'est transformée tellement subtilement que je n'ai rien vu venir. Par contre, je ne crois pas que je trouve la situation aussi douloureuse qu'Anna. Elle a toujours été plus préoccupée que moi, ajoute-t-il avec un sourire charmeur et un clin d'œil à sa femme. Il me semble que c'est normal, après 14 ans de vie commune, que ce ne soit plus comme au début. Quand je compare ma vie avec Anna à celle que je vivais avec ma première épouse, il y a une bonne différence. Rita, je ne pouvais plus la sentir et je m'arrangeais toujours pour ne pas être à la maison. Mais tout de même, je ne suis pas opposée à l'idée d'améliorer notre situation, si c'est possible. C'est super, Mario. Je suis contente que tu conviennes qu'il y a place à l'amélioration. Sinon, il serait très difficile de trouver des solutions ensemble. Je vais commencer par réviser avec vous la notion d'amour véritable. C'est le but premier de cette visite. Êtes-vous d'accord? Les deux me répondent oui en même temps et Mario ajoute. Ça doit faire 5 ans que j'ai suivi le cours « Écoute ton corps », donc un rappel ne peut pas me faire de tort. Le mot « amour » est sûrement l'un des mots les plus utilisés au monde. Et il est employé de tant de façons qu'il est très difficile d'en connaître la vraie signification. Voilà pourquoi la plupart des gens se méprennent sur bien des attitudes et des comportements qu'ils considèrent comme de l'amour véritable. Regardons ensemble les comportements et les façons de vivre qui sont le plus souvent confondus avec l'amour. Commençons par l'affection. On croit qu'une personne très affectueuse est remplie d'amour. Combien de personnes montrent facilement de l'affection à leurs proches, mais sont sans cesse en train de s'autocritiquer ou de se rabaisser? Une personne affectueuse a le don de montrer aux autres à quel point ils l'affectent. Elle peut utiliser des moyens comme faire un cadeau, faire un compliment, offrir des fleurs, toucher chaleureusement, prendre dans ses bras pour que l'autre sente qu'il fait une différence dans sa vie. Des marques d'affection peuvent être très appréciées par ceux qui les reçoivent, mais ne veulent pas nécessairement dire que la personne qui les donne le fait par amour véritable. Si la personne qui donne des marques d'affection a la moindre attente, ce n'est pas un don d'amour qu'elle fait. Elle est plutôt en attente d'en recevoir de l'autre. On peut placer dans cette catégorie les gens très démonstratifs. Plusieurs croient qu'être démonstratif est un signe d'amour, quand en réalité, Être démonstratif, être expressif, n'a rien à voir avec l'amour véritable. C'est tout simplement un trait de caractère différent. Une personne peut ne jamais dire « je t'aime » aux autres et être malgré tout remplie d'amour. Elle est tout simplement incapable d'exprimer ce qu'elle vit. Cependant, cette même personne va exprimer son amour de bien d'autres façons. Il s'agit seulement de savoir les reconnaître. Nous verrons plus tard ce qu'est l'amour véritable. Une personne peut manifester de la pitié envers autrui, envers un handicapé par exemple. Les témoins de cette pitié peuvent croire que cette personne témoigne de l'amour à la personne handicapée. La pitié n'est pas de l'amour. C'est une sensibilité aux souffrances ou aux malheurs d'autrui. En général, la pitié fait non seulement souffrir la personne qui la manifeste, mais aussi celle qui la reçoit. Souvent inconsciemment, celle qui est prise en pitié perçoit que l'autre se sent supérieur à elle. Elle donne l'impression d'être quelqu'un qui ne peut pas s'en sortir seul. Elle se sent donc inférieure. Une autre personne peut faire preuve d'un grand dévouement pour quelqu'un et croire qu'elle démontre ainsi son amour. Il se peut que ce dévouement soit motivé par de l'amour véritable, mais il y a de nombreuses occasions où ce n'est pas le cas. Plusieurs parmi les grands dévoués sont davantage motivés par le devoir, la culpabilité ou la peur. Ils se sacrifient pour une autre personne ou pour une cause importante à leurs yeux. Mais le verbe « se sacrifier » signifie faire la volonté de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi le dévouement implique souvent que la personne oublie complètement ses propres besoins pour écouter ceux de l'autre. Un tel comportement ne peut qu'engendrer beaucoup d'attentes de reconnaissance, et si ces attentes ne sont pas comblées, les émotions et la frustration apparaissent. Il y a aussi l'amour passionnel, qui est presque toujours pris à tort pour un grand amour. On utilise souvent l'expression « fou d'amour » pour illustrer l'amour passionnel. Ce fut votre cas à tous les deux, n'est-ce pas, au début de votre relation? Le terme dit bien que la personne passionnée en perd presque la raison. Il y a amour passionnel quand une personne ne peut être bien qu'en présence de l'être aimé. Elle ne peut accepter que l'autre soit heureux en son absence et surtout s'il exprime le désir de faire des activités seule. Elle ne vit que pour le moment où l'autre sera à ses côtés ou, à défaut, elle pourra entendre sa voix. Elle idéalise l'autre en ne lui attribuant que les qualités qui lui conviennent. Elle ne voit pas la réalité, c'est-à-dire ses défauts, ses travers. Ce genre d'amour a détruit bien des couples, généré bien des problèmes professionnels et a même ruiné plusieurs personnes, car les gens passionnés prennent souvent des décisions irréfléchies pour être le plus souvent possible avec l'objet de leur passion. Cet amour n'est pas de l'amour véritable. Je ne dis pas qu'il ne doit jamais y avoir d'amour passionnel afin de connaître l'amour véritable. En réalité, il est assez fréquent qu'une relation amoureuse soit passionnée au début, mais peu à peu, la passion s'estompe pour faire place au vrai amour. Les gens qui croient que l'amour passionnel est le vrai amour sont portés à quitter l'autre au moment où la passion s'éteint pour rechercher une autre passion. Les gens qui veulent vivre un amour véritable vont plutôt savoir intuitivement que c'est au moment où la passion diminue que l'amour véritable débute. Une autre croyance erronée est que faire l'amour avec quelqu'un est un signe d'amour véritable. Est-ce que vous croyez à cela? Mario s'empresse de prendre la parole.
Tout le monde sait qu'on peut faire l'amour sans être amoureux.
Tu me réponds au nom des hommes, Mario, lui dis-je en souriant. Il est vrai que la majorité des hommes peuvent faire l'amour sans être amoureux. Tu serais surpris d'apprendre à quel point un grand nombre de femmes et certains hommes continuent à croire que l'acte sexuel est une preuve d'amour. Combien de jeunes filles, par exemple, tombent follement amoureuses du garçon avec qui elles ont accepté de faire l'amour pour la première fois? Cette croyance se perpétue chez les femmes adultes qui, souvent suite à une séparation, se croient amoureuses du premier homme avec qui elles acceptent de faire l'amour. Les hommes disent qu'il est possible de faire l'amour sans être amoureux, mais combien de fois ai-je entendu de leur part qu'ils ne comprennent pas que leur conjointe, qui dit les aimer, refuse de faire l'amour avec eux aussi souvent qu'ils en ont besoin,
Ils sont convaincus que deux personnes qui s'aiment devraient toujours avoir envie de faire l'amour ensemble. Alors, tu vois, Mario, les femmes et les hommes ont la même croyance, mais elle n'est pas exprimée de la même façon. La femme fait l'amour par amour et l'homme fait l'amour pour l'amour. En réalité, le sexe n'a rien à voir avec l'amour véritable. Cependant, faire l'amour alors qu'il y a un amour vrai entre deux personnes est une expérience de fusion et de plaisir extraordinaire. Mais il est beaucoup plus courant que cet acte soit fait par devoir, par peur de perdre l'autre, par peur de déplaire, par besoin d'attention, par besoin d'affection, par manipulation ou par peur de la réaction ou de la violence de l'autre, ou tout simplement pour avoir une sensation physique de plaisir ou de pouvoir. Il y a aussi le comportement possessif, qui est souvent confondu avec l'amour. Il y a différentes façons d'exprimer la possession. L'attitude la plus fréquente est vouloir à tout prix le bonheur de ce que nous aimons. Je suis assurée que vous vous reconnaissez dans cette définition, car la grande majorité des gens confondent cela avec de l'amour véritable. Je ne suis pas en train de dire que nous devons être indifférents face aux êtres chers et que leur bonheur ou leur malheur doit nous importer peu. Je parle surtout des personnes qui n'arrivent pas à être heureuses quand un de leurs proches est malheureux. Ce phénomène est très fréquent entre parents et enfants et entre conjoints. Une personne peut avoir de la compassion et offrir d'aider ceux qui souffrent, mais si elle souffre avec eux et que cela affecte son propre bonheur, ce n'est pas à cause de l'amour qu'elle leur porte. C'est à cause de son attitude possessive et de la peur de perdre l'amour de l'autre. Anna me regarde intensément et semble avoir de la difficulté à accepter ce que je viens de dire.
Jusque-là, j'étais vraiment d'accord avec tout ce que tu disais, mais je crois qu'il est impossible d'être bien quand on voit ceux qu'on aime malheureux. Connais-tu beaucoup de personnes qui y arrivent ?
Pour y arriver, nous devons premièrement en être conscients, puis reconnaître que personne au monde ne peut rendre quelqu'un d'autre heureux, que le bonheur ne peut venir que de l'intérieur de soi. La réaction que tu as, Anna, est causée par le fait que tu passes d'un extrême à l'autre. Est-ce que tu crois que si une personne est heureuse malgré le fait que son conjoint ne l'est pas, c'est parce qu'elle est indifférente ?
Bien sûr. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas de l'indifférence ?
C'est de l'observation et de la responsabilité. Je te rappelle qu'être responsable, c'est assumer les conséquences de nos choix et laisser les autres assumer les conséquences de leurs décisions. Si ton conjoint, un de tes parents ou un de tes enfants décide de ne pas être heureux, il doit en assumer les conséquences. Si tu n'es pas heureuse à cause de sa décision, tu es en train d'assumer les conséquences du choix de l'autre. Je sais que cette notion de responsabilité est très difficile à assimiler pour la plupart des gens, et nous y reviendrons certainement plusieurs fois. En devenant de plus en plus responsable, tu découvriras qu'il y a un juste milieu entre se considérer comme responsable du bonheur de l'autre et être indifférent. Je disais donc qu'une personne très possessive, voire même jalouse, est convaincue qu'elle exprime son amour à l'autre. Comment reconnaître un tel comportement lorsqu'il se présente avec un conjoint, un parent ou un enfant ? Cette personne veut toujours savoir ce que fait l'être aimé, ce qu'il pense, où il est, bref, tout savoir sur l'autre. C'est une relation de grand contrôle. Elle est prête à utiliser tous les moyens pour avoir l'attention et la présence de l'autre. Menacer, forcer, se plaindre, bouder, tomber malade, avoir un accident, se montrer faible, faire des pirouettes, cajoler, caresser, espionner, fouiller dans les affaires personnelles de l'autre, etc. Quel que soit le moyen utilisé, cette personne est convaincue d'aimer à un point tel qu'elle va jusqu'à croire qu'elle veut aider l'autre, que tout est permis au nom de l'amour. D'ailleurs, elle dira souvent « C'est parce que je t'aime que j'agis ainsi. Ah, si seulement je ne t'aimais pas tant, c'est toi qui me forces à agir ainsi. » Ce genre de personne prend rarement ses responsabilités. Elle est plutôt portée à accuser l'autre de son malheur, car son bonheur dépend de l'autre. En disant ces paroles, je vois Anna qui rougit, baisse la tête et
de plus en plus mal à l'aise, se penche pour fouiller dans son sac à main posé par terre. Elle en sort un mouchoir et fait semblant de se moucher. Mario ne semble pas se rendre compte de son malaise. Il écoute attentivement ce que je dis. Enfin, il y a l'amour véritable, inconditionnel, qui peut être exprimé d'une façon générale avec tous. Que ce soit l'amour de soi, l'amour paternel, maternel, fraternel, intime ou amical, l'amour inconditionnel s'exprime de la même façon. Voici plusieurs moyens de reconnaître ce genre d'amour. Avec soi-même. Me donner le droit d'être ce que je suis à chaque instant, même si je ne suis pas ce que je veux être. Exemple, être impatient, être menteur. Accepter mes différences par rapport aux autres, sans aucun jugement. Être capable de me faire plaisir, même si je ne crois pas le mériter. Me donner le droit d'être humain. Exemple, avoir des peurs, des faiblesses, des limites. Me rappeler que tout ce que l'on vit est une expérience et non une erreur, ce qui évite le jugement. Laisser mon cœur décider plutôt que de tenir compte de la notion de bien et de mal suggérée par les autres. Apprendre de chaque expérience plutôt que de me condamner. Écouter mon besoin même si les autres me conseillent autrement. Être bien même si je ne réponds pas à mes propres attentes ou si je ne tiens pas ma promesse envers moi-même ou les autres. Observer ce qui se passe, même si une petite voix intérieure n'est pas d'accord. Me rappeler que personne ne peut s'occuper de mon bonheur, que je suis la seule personne responsable de ce qui m'arrive. Avec les autres. Leur donner le droit d'être ce qu'ils sont à chaque instant, surtout s'ils ne sont pas ce que je veux qu'ils soient. Exemple, l'autre est paresseux ou négatif. Accepter la différence des autres sans les juger. Donner des conseils aux autres ou les guider sans rien attendre en retour. Leur donner le droit d'être humain. Exemple, avoir des peurs, des faiblesses, des limites. Leur permettre de décider eux-mêmes, surtout si je juge qu'une décision est inacceptable. Me rappeler que chaque personne a besoin de vivre des expériences différentes selon son plan de vie. Les laisser vivre leurs expériences et en assumer les conséquences. Faire des demandes sans attente. Exemple, me savoir aimer même si l'autre me dit non. Me souvenir qu'une attente est légitime seulement lorsqu'il y a eu une entente claire entre deux personnes. Observer les autres plutôt que de les juger ou les critiquer. Me souvenir que je ne peux pas rendre quelqu'un d'autre heureux. Ce dernier est le seul responsable de son bonheur. Il est intéressant de constater qu'un bon nombre de personnes continuent de croire que la définition que je viens de donner de l'amour véritable est celle de l'égoïsme. Elles sont convaincues que penser à soi avant les autres, c'est de l'égoïsme. Si vous pensez de cette façon, je tiens à vous préciser qu'être égoïste, c'est vouloir que l'autre s'occupe de nos besoins avant les siens, c'est prendre pour soi au détriment de l'autre, c'est croire que les autres sont responsables de notre bonheur. C'est donc le contraire de l'amour véritable. Dis-moi, Anna, peux-tu me donner un exemple d'une situation où tu as accusé Mario d'être égoïste ? C'est très facile, s'empresse de répondre Anna. Je le trouve très égoïste parfois, surtout lorsqu'il finit de travailler tôt. J'arrive à la maison vers 19h, fatiguée de ma journée de travail et de l'heure de métro et d'autobus que je dois faire pour me rendre chez nous. Je travaille au centre-ville dans une boutique de vêtements pour enfants et je passe la majeure partie de la journée debout. La première chose que Mario me dit quand j'arrive, c'est « J'ai très faim. Est-ce que ce sera long avant que le souper soit prêt ?» Imagines-tu ma frustration ? C'est lui qui prend l'auto pour aller travailler. Il arrive souvent plus de 2 heures avant moi et il ne prépare même pas le repas. Je crois que ce qui me met le plus en colère, c'est qu'il me pose cette question avant même de me dire bonjour et de s'informer si j'ai passé une bonne journée. « Mais voyons, ma cocotte !» rétorque tout de suite Mario. « Tu sais que j'ai besoin de l'auto la journée, car j'ai souvent des déplacements à faire. En plus, je n'aime pas du tout faire la cuisine. Je ne sais même pas cuisiner. Et quand je finis du travailler à 16h, c'est parce que j'ai commencé très tôt le matin. Je suis donc fatiguée quand j'arrive. Je ne comprends pas pourquoi tu te plains.
Tu n'as même pas besoin de travailler. Je t'ai dit plusieurs fois que j'ai un très bon salaire et qu'il est suffisant pour la famille. C'est toi qui insistes pour aller travailler. Tu sais que je deviendrais folle à demeurer à la maison toute la journée. Ce travail est important pour moi. De toute façon, tu as toujours de bonnes excuses pour que je sois ta servante. N'importe quel idiot peut faire la cuisine. Je ne te demande pas un festin. Une petite omelette me ferait très plaisir. Tu ne peux tout de même pas me faire croire que tu ne saurais pas casser quelques œufs dans une poêle à frire. Tu es un homme brillant et tu es un bricoleur habile. Je suis certaine que si tu le voulais, tu pourrais très bien apprendre à cuisiner un peu. Je les regarde et les écoute s'affronter, et je peux facilement imaginer que ce genre de scène est fréquent. Ils y semblent habitués. Ils ont même oublié que je suis là. Je tousse assez bruyamment pour leur rappeler ma présence. Ils arrêtent net de parler et me regardent embarrassés. J'éclate de rire, ce qui les calme. Peu à peu, ils se mettent à rire avec moi.